orientale, tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Hey, ta dernière découverte artistique date de 2003.
Aïe, tant que ça change.
Moi, c'est Morin.
Knopfergaï.
On est porte-parole du 21e festival Vue sur la relève.
Découvre avant tout le monde les grands noms de demain.
Une programmation originale et audacieuse qui reflète les tendances de l'heure en art de la scène.
Du 5 au 16 avril, lâche ton ordinateur et viens voir des shows.
$12 pour 2 à 4 spectacles par soir.
Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québécois.
Visite vuesurlarelève.com.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock. Pop en Stock, comme vous le connaissez bien, est l'extension de la revue numérique portant le même nom. Et je ne lirai pas le texte aujourd'hui, je vais juste vous dire que je suis particulièrement content de vous voir, de vous entendre et de sentir votre présence, chers auditeurs. Donc, il y a une espèce de maxime, en fait, que j'utilise assez souvent concernant le fait que la culture populaire nous rend tous collectivement plus intelligents. Et je sais que c'est devenu un peu ma marotte, c'est devenu un peu le comment, regarde ce gars qui se promène puis qui fait son espèce de déclamation assez péremptoire par rapport à ça. C'est cette idée-là que la culture populaire a une accessibilité qui est au-delà de qu'est-ce qu'on avait à l'époque. Donc, la culture savante était fondamentalement beaucoup plus consommée par des gens qui avaient les moyens de le faire. Maintenant, avec la culture pop, tout le monde a les moyens de consommer cette culture-là et il y a une augmentation de l'intelligence collective qui se fait par l'observation, l'analyse, par le fait qu'on dissèque ces objets-là, qu'on décide de partager nos points de vue, nos headcanons et tout, avoir une espèce de grand cerveau collectif autour des objets communs. On en parle énormément, pas pensant que c'est fondamentalement la raison de l'émission, de vouloir partager cette érudition et aussi de vouloir rencontrer les autres. Mais dans le cas de cette émission-ci aujourd'hui, où on parle du jeu vidéo indépendant, la dynamique est d'autant plus vraie parce qu'en fait, le jeu vidéo et les conversations qui en émergent rendent les créateurs et les consommateurs plus intelligents. Mais dans le cas de l'émission qu'on va parler aujourd'hui, je vais parler de l'aspect de l'unification, du fait que l'on peut que la dynamique existe dans une force de rassemblement. Puis, l'exemple est quand même très concret parce que hier matin a eu lieu la conférence de presse qui annonçait la création de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, qui est essentiellement la plus importante coopérative du genre au monde. Ça met, si je me trompe pas, quelque chose comme 75 entreprises québécoises dans un partage de connaissances et de ressources. C'est immense. C'est à peu près 700 employés qui vont pouvoir échanger de leur expertise et aussi de leur innovation et de leur dynamisme. Donc, l'émission aujourd'hui sur le jeu vidéo indépendant sera sous la tutelle de cette grande initiative-là. Et je me suis dit qu'il n'y avait personne de mieux ici pour en parler que nos chroniqueurs, en fait, nos chroniqueurs les plus pertinents, nos grands collaborateurs. Donc, je présente et je te remercie. Je dis bonjour, Guillaume Couture.
Comment ça va? Salut. Ça va très bien. Ça fait plaisir de revenir vous voir.
C'était gros, hein?
Il y avait un geste. On l'a manqué, là, parce qu'on fait du son.
On fait du son, oui. Je me fais beaucoup reprendre par rapport à ça. Le fait que je suis toujours en train de faire semblant que j'ai des plumes.
Mais ta théâtralité s'entend, ce récent.
Merci. Voilà. C'est fondamentalement c'est l'impression que ça me donne, cette idée-là de même si on ne voit pas le geste, on entend le geste.
Oui.
Et on entend aussi l'espèce d'empoulement. Je suis très, très, très content. aussi, deuxièmement, on a un nouveau, quelqu'un qu'on est très content d'accueillir, Christopher Chauncey.
Oui.
Je le prononce comme il faut. Yes! qui est le développeur et le fondateur de Manavoid Entertainment, qui, si vous googlez rapidement, ils sont présentement en train de travailler sur un jeu qui s'appelle Epic Manager. C'est le plus envoûtant et enthousiasmant synopsis de l'histoire du jeu vidéo indépendant. J'en reviens pas. J'étais juste comme « je veux jouer tout de suite ». Fondamentalement, le jeu, c'est qu'on gère un campaign, un party d'aventuriers, mais un peu comme si on faisait des RH. Donc, c'est une agence qui va engager ton sorcier ou t'as besoin d'un thief, mais tu t'en vas dans une agence pour avoir des thieves. Je trouve ça... J'ai hâte. J'ai vraiment.
C'est gentil. On a hâte de te le donner.
Ça va être malade. Donc, ouais, Epic Manager à Manovo Entertainment. Mais merci énormément, Christopher, d'être ici pour parler de la situation.
Ça fait plaisir.
Et aussi, merci d'avoir amené le camarade par excellence. Ben, c'est pas. En fait, je fais une blague, là, parce que c'est plutôt toi qui es.
Ouais, c'est pas grave.
Souvent
à l'émission. Tout le monde m'amène.
Yeah! Et tu amènes tout le monde. Vous avez entendu et reconnu la voix d'Alexandre Poirier. En fait, cette émission-là n'aurait pas pu être complète sans toi.
Ah, hey, ça.
C'est de l'émotion aujourd'hui. Je suis à bonne place.
Je suis ému.
Compléter l'émotion, le feeling. Oui, oui. Hélène Laurent en studio avec nous.
Oui.
Alors.
Pour les 30 prochaines minutes à peu près. Oui.
Pour le temps que l'on peut avoir avec toi.
Oui. C'est ça que je veux être la gossante qui va poser des questions.
Donc, bonjour, groupe.
Salut.
Bonjour. Allô.
Papa en stock 91, je pense. Ouais. Si je ne me trompe pas, merci. Le jeu vidéo indépendant.
Oui!
Yeah. Donc c'est ça, frais de cette nouvelle-là, on se retrouve à avoir un nouveau souffle, on se retrouve à avoir un nouvel engouement en quelque sorte. J'étais quand même surpris de voir que c'est aussi des grosses pointures qui sont derrière ça. On a entendu beaucoup parler de Patrick Desilets.
Patrice
Desilets. Merci beaucoup. On va régler son montage.
c'est pas grave. Ouais,
qui a été à la barre de grandes franchises pour Ubisoft. Je pense qu'il a géré Assassin's Creed pendant...
1, 2 et Brotherhood jusqu'à temps qu'il claque la porte.
Il a décidé de partir.
Ouais, il a décidé de partir, ouais. C'est ça. Ouais.
Et là, bon, on le retrouve. Est-ce qu'il est en quelque sorte un porte-parole ou est-ce que c'est un grand fleuron?
Il a ensuite développé... En fait, il a sorti sa propre compagnie qui s'appelle Panache Studio. Okay. Maintenant, il fait partie de notre famille d'indépendants. Donc... On l'a accueilli comme ça.
Et dans la guilde, est-ce que toute la voie est unifiée ou y a-tu des personnes qui prennent des postes clés pour...
Il y a un conseil d'administration à la guilde. Je dirais que la personne la plus porte-parole, ce serait Louis-Félix Cochon de Borealis Studio, qui sort un jeu bientôt qui s'appelle Mages of Mistralia, qui est là très intéressant. Puis ça, c'est son rêve depuis longtemps, dans le fond. Il était professeur à l'Université de Montréal au DESS en design de jeu.
Ah ouais?
Et il nous avait déjà fait part de son idée il y a 2 ans, quand moi j'étais là. Et cette année, ils ont travaillé fort là-dessus. Ils ont rassemblé 75 studios ensemble sous la même bannière, puis... On le suit tous, Louis-Félix Cochon. On y fait confiance avec nos studios et tout ça. Là.
Donc, vous avez votre leader charismatique.
Ah oui. Il sait ce qu'il fait, puis il a une belle vision, puis on est bien épaulé. Il y a Pascal Nataf aussi. Il y a plein de gens, en fait, qui sont sous la barre. Là, mais ouais.
J'ai ma première question. Qu'est-ce que vous faites dans... Pas besoin de me vouvoyer, là. Qu'est-ce que vous faites dans la guilde? Donc, vous êtes une coopérative?
Oui. La guilde, c'est une OBNL, dans le fond, qui agit sous forme de coopérative pour, dans le fond, donner une voix aux studios indépendants de Montréal. Il y a certaines organisations qui existent, comme par exemple l'Alliance numérique, des choses comme ça, qui, eux, avaient une voix, sauf que sont gérées surtout par des gens chez Ubisoft, chez Warner, chez les grands joueurs.
Okay, ouais.
Donc, quand on vient de parler des compagnies de 3, 4 à 20 personnes, par exemple, avec des budgets beaucoup moins gros, nos enjeux sont pas les mêmes que eux. Mm-hmm, et donc, il y avait pas vraiment personne qui avait pris la position de ces entreprises-là. Maintenant, avec la guilde, on est 700 employés environ, comme l'a mentionné Jean-Michel. Et donc, ça nous donne une voix, ça nous donne une présence. Maintenant, on a une place à la table, les gens vont nous écouter parce qu'on est une beaucoup plus grande masse que tout plein de gens, dans le fond.
OK, donc une association représentative.
Exact. Puis là, avec tout ça, il vient, dans le fond, un échange de services. Il vient tout le mentorat qui vient avec ça. Il y a beaucoup d'échanges, des soirées d'échanges. Puis maintenant aussi, on a un pouvoir d'achat un peu plus grand, par exemple. Mm-hmm. S'ils vont lancer un appel qui a besoin d'ordinateur, mais c'est sûr que notre pouvoir d'achat, si on en achète 100 versus si on en achète 2. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui deviennent intéressantes. Là. Des assurances collectives aussi, des choses comme ça, dans le fond.
Hey, c'est fantastique.
Aller se faire réparer les dents, c'est très important.
Oui, quand même.
Ben, ça distrait de la programmation, hein, quand on a un clou de girofle dans la gueule.
C'est ça.
Mais c'est brillant. Donc, on peut attendre un âge d'or du jeu vidéo montréalais là, avec une initiative telle que celle-ci?
Je pense que ça amène que des bonnes choses, effectivement.
Ben ouais.
Quand ils ont proposé l'idée, ça avait l'air farfelu, ça avait l'air d'être difficile à faire, mais c'est surprenant à quel point les studios indépendants sont prêts à serrer les coudes, parce qu'on vit tous les mêmes enjeux. On n'a tous pas beaucoup d'argent, on est tous en train d'essayer, dans le fond, de développer cette art form-là, dans le fond. Puis, c'est vraiment beau à voir, en fait, à quel point ça s'est fait rapidement.
Parce que c'est souvent un saut dans le vide, développer un jeu indépendant. Au niveau financier, au niveau personnel, c'est un effort, c'est un marathon de longue haleine, puis il n'y a personne qui nous attend qu'une petite tranche d'orange au bout, là.
Certainement, c'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup de sacrifices. Surtout sur le premier projet, c'est rare que tu te payes. Là.
Ouais, c'est ça.
Puis il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans aussi sur ton premier projet. C'est sûr que tu ne fais pas tout bien la première fois. Puis là, avec des initiatives comme la Guilde, maintenant, au moins, on est capable de lancer des idées, voir « Ah, toi, tu l'avais fait comment? Qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné? » Puis là, on part, dans le fond, d'un même pied.
Et est-ce que le DSS de l'UDM est inclus? Est-ce qu'il y aura des consultations auprès des professeurs?
Inclus, oui et non. Dans le fond, il y a deux des professeurs du DSS qui sont dans le conseil d'administration de la Guilde. Donc, oui, veut pas, c'est sûr qu'il y a un certain lien là. Mais, pardon?
Dominique Carl?
Non.
Dominique Carl, c'est la mineure en études de jeux vidéo.
Ah oui, OK, pardon.
Mais eux aussi sont plus études, volets théoriques, mais bon, sont super intéressés à ce projet-là. Ben, en fait, n'importe qui travaille de loin ou de près dans le jeu vidéo, que ce soit en études ou en design, je pense que c'est une idée remarquable, hors du commun.
Dominique et Carl sont des gens justement qui poussent beaucoup la culture puis qui forment justement des gens qui par la suite vont devenir peut-être designers et des choses comme ça aussi. Fait que c'est sûr que eux ils ont leur rôle à jouer au niveau des étudiants, mais au DES ça c'est un petit peu plus technique effectivement.
On parle de Dominique Arsenault et Carl Thérien.
Carl Thérien, oui.
C'est tout comme eux, ouais.
Même moi je les connais,
c'est ça. Hey, big
shot. Pas besoin de poser de questions.
Mais Jean-Michel, tu parles de d'âge d'or du jeu vidéo, mais tu sais il y a des gens depuis longtemps qui disent qu'un peu à Montréal, l'âge d'or est là depuis un bon moment. On dit déjà, en fait, pour l'industrie AAA, du moins, avec Ubisoft, tout ça, on est comme la capitale mondiale, mais je pense qu'avec en plus d'être la capitale mondiale du jeu vidéo AAA, on pourrait même dire que Montréal est en train de devenir la capitale mondiale du jeu indépendant, ce qui est quand même assez impressionnant.
Ben, parce que c'est une dynamique qui fonctionne que les studios AAA forment une excellente main-d'œuvre qui ne reste pas toujours à leur emploi.
Qui finit par faire un burn-out parce qu'ils sont tannés de travailler sur un truc en particulier pendant des heures et des heures.
Donc, c'est ça, c'est des histoires assez communes, mais là, ces gens-là, comme vous disiez, fondent leur petite boîte. Là, ils s'arment essentiellement, là, donc l'outillage. C'est une excellente formation qui, maintenant, va pouvoir créer des trucs à la hauteur de leur créativité.
Ouais. Je suis quand même d'accord de dire qu'on arrive à un bon moment pour le jeu vidéo indépendant parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont maintenant comme démocratisés. Là. N'importe qui peut développer un jeu vidéo gratuitement. Tous les engins de jeu, il y en a plusieurs qui sont gratuits. Il y a plein d'outils maintenant. Google...
Unreal 4, je pense, qui est rendu gratuit. L'engin Unreal 4, Unity.
Ouais. Nous, on développe sur Unity, qui est gratuit depuis longtemps. Puis je pense qu'on arrive quand même à un bon moment, effectivement, pour dire que c'est l'âge d'or du jeu vidéo indépendant. Les outils existent en ligne, il faut juste être game d'aller les chercher maintenant, je pense. Ouais.
Et ça, c'est pour la création, mais aussi pour la diffusion. Des trucs comme Steam, pullule, puis ça multiplie les possibilités de...
Tu as bien raison. On n'a plus besoin de passer par un distributeur physique. On n'a plus besoin. Fait que la barrière à l'entrée pour créer un jeu vidéo maintenant est vraiment moins grande. Fait qu'effectivement, ça a définitivement un lien.
Hélène, Steam...
Oui, je sais quoi.
Tu es au courant.
Oui.
OK, c'est ça. C'est une plateforme. Non, mais au cas où, il y a aussi...
C'est pas juste la vapeur, tu sais. Ouais.
Non, mais au-delà... Ou une chanson de Peter Gabriel.
Yes! Wow, la belle référence. Ça fait plaisir, ça.
Je ne connais pas cette référence-là. Je suis trop jeune. Sorry.
Mais au-delà d'Hélène, Steam, c'est vraiment comme une... C'est un pay-to-play, donc c'est une plateforme où on achète des jeux vidéo qui sont autorisés par la compagnie Valve, c'est
ça? Dans le fond, la manière que ça fonctionne, ils sont rendus avec 150 millions d'utilisateurs actifs sur Steam. C'est rendu la plateforme de distribution digitale pour les jeux vidéo la plus grande au monde. Puis la manière que ça fonctionne, dans le fond, il y a un peu un concours de popularité pour faire diffuser ton jeu sur Steam, pour faire distribuer ton jeu sur Steam, ça s'appelle Steam Greenlight.
Okay.
Essentiellement, n'importe quel développeur peut mettre, dans le fond, son idée de l'avant sur Steam Greenlight. Tu présentes des vidéos, des images de ton jeu, jeu, tu le décris. Puis si les gens se font poser la question, donc après, est-ce que j'achèterais ce jeu sur Steam, oui ou non?
Donc, c'est, si, en fait, c'est des... C'est
ce sont des jeux en développement.
OK, ouais, c'est ça.
C'est des usagers qui sont triés sur le volet ou ça peut être n'importe qui?
N'importe qui peut aller, dans le fond, sur l'onglet Greenlight. Il peut commencer à lui trier les jeux qui les intéressent. Ils peuvent même liker la page et par la suite, dans le fond, chaque fois que moi, je fais un update, par exemple, sur Epic Manager, les gens reçoivent tous. Fait que ça fait qu'on a comme une petite communauté qui se crée aussi là.
Wow! Oui, c'est ça, parce que j'utilisais l'expression « pay to play », mais celle-là est connotée pour quelque chose d'autre. Il faut quand même que je fasse attention par rapport à la taxonomie de jeux vidéo. C'est vraiment plus comme un...
C'est vraiment un distributeur.
Il y a des jeux qui sont gratuits sur Steam, par exemple.
Oui, exactement. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je me suis rendu compte de ce que j'ai dit.
Mais l'avantage d'une initiative comme Greenlight, c'est le contact avec le public. Je ne suis pas un développeur. Peut-être que, Christopher, tu peux nous en parler un peu plus. Mais justement, cette espèce de feedback-là de « on met une mise à jour d'où est-ce qu'on est rendu », le public peut nous diriger dans ce qu'il veut. À quel point on a une communication comme
c'est, ça? Ben, c'est sûr que dans les commentaires qu'on reçoit souvent... sur des commentaires justement sur des idées comme comment est-ce qu'on peut pousser le design plus loin. On a reçu beaucoup de gens en fait qui parlaient de localisation. Ah, on aimerait que vous traduisiez votre jeu en allemand et en russe, ce serait vraiment intéressant. T'sais. C'est sûr qu'à court terme, c'est pas quelque chose qu'on est capable de faire à nous quatre, là. Mais c'est, à force d'avoir des commentaires comme ça, c'est sûr que c'est un pourcentage de la population qui est significatif. Ben, à ce moment-là, on va le développer peut-être en allemand.
Mm-hmm. Puis en même temps, le Greenlight, est-ce qu'il y a un moment où Valve et Steam font OK, vous avez reçu assez de trafic, vous avez reçu assez de reconnaissance.
Oui, exact.
Nous autres, on considère que c'est le moment de...
Vous êtes officiellement greenlit, puis là, une fois que tu as l'étampe, dans le fond, c'est une garantie de distribution sur Steam. Tu peux prendre le nombre de temps que tu veux pour finir ton jeu, puis ensuite le mettre sur la page.
C'est fantastique.
C'est bien fait, Steam, quand même.
Ben, Valve...
Valve, ils savent ce qu'ils font.
C'est ça. C'est pour les gens qui sont un peu moins connaissants, Valve, c'est vraiment une énorme entreprise qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. Mm-hmm. Notamment, comme tu disais, par le... Ben, c'est pas eux autres qui ont Unreal, mais tout est...
Mais ils ont l'engin source, engine, source engine, ouais.
C'est eux autres, donc ils rendent ça disponible à n'importe qui.
Ouais, pas mal.
C'est vraiment...
Source commence à montrer son âge, mais...
Mais c'est juste cette idée-là de comme Valve est une compagnie extrêmement ouverte, extrêmement généreuse, qui veut vraiment que le jeu vidéo...
Une compagnie va tourner vers sa communauté.
Puis là, elle existe là, littéralement, la console Valve.
Steambox, en fait, qui est un ordinateur qui est vraiment conçu pour le jeu. Donc, on oublie, c'est un système d'exploitation qui est le SteamOS et non le SteamOS. Donc, OK, c'est pas un roteur mexicain. Puis, gag de merde. Mais c'est une console. Le SteamOS, c'est un Linux modifié. Puis c'est un système d'exploitation un peu comme... c'est vraiment un PlayStation 4 ou une Xbox 360... Xbox One, pardon. J'ai l'air d'être un vieux crouton quand je dis ça. Et,
hold your mouth, young man.
Le Nintendo. Puis en fait, c'est ça. C'est assez abordable, tu sais, comparativement à une console. Donc, 400-500$. Puis c'est vraiment... On branche ça sur la télévision. Puis on joue à une console. Il y a une manette aussi qui a des critiques plutôt mitigées pour le moment, mais ça va s'améliorer, j'imagine.
Il y avait une grosse disparité entre les joueurs de console et les joueurs PC. Le terme PC Master Race s'est déjà fait entendre souvent. Quelque chose comme comme le Steambox vient justement un peu comme brouiller la ligne entre les deux, où est-ce que les gens maintenant peuvent jouer aux jeux PC, mais sous forme un peu plus console, dans le fond.
Le Steambox, en fait, est comme une licence accordé à des compagnies pour faire cette console-là. Fait que c'est une console open source. Là. C'est un terme que je brandis comme ça, mais c'est pas
avec
exactement...
Avec des guillemets radiophoniques.
C'est ça, genre... mais voilà, donc au lieu d'avoir une console de jeu qui est fixe pendant 5 à 7 ans, comme les consoles de salon, on a désormais une console Steambox qui va toujours être en évolution, qui va toujours être le PC le meilleur pour gamer au moment où tu l'achètes.
Tu peux changer ta carte graphique sur ton Steambox, par exemple.
Ah, c'est super!
Est-ce que c'est Raspberry Pi ou c'est... tu dis que c'est un peu comme Linux ou...
Non, c'est vraiment... En fait, c'est parce que le problème avec les Raspberry Pi, c'est que souvent, c'est vraiment... Tu reçois une carte maîtresse, pas grand-chose, puis tu t'arranges avec ça. Ouais. Le SteamOS, la Steambox, en fait, arrive déjà faite. C'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde, en plus, parce que souvent, un PC... moi, je l'ai fait, ma première expérience de monter un PC, il y a 3 ans, tu sais, je connaissais absolument rien. Là, je capotais un peu, tandis qu'il y a un Steambox...
Okay,
450$, merci, bonsoir, tu déballes ça, tu branches avec un
câble
HDMI.
Mais ça s'améliore, ça continue de s'améliorer à cause de...
Tu peux le modifier, tu sais, mais c'est vraiment, c'est pas compliqué, tu ouvres ça, tu sais quelle pièce changer, tu l'enlèves, tu la remplaces.
Exact.
Ouais.
Et dans quelqu'un qui a comme un gros fichier Steam chez soi, parce que c'est ça, je suis un grand fan de Steam, mais j'ai très peu de temps pour y jouer, fait que là, vous êtes en train de... faire en sorte que l'émission va terminer peut-être un peu plus tôt. Je serais
encore... Non, c'est ça. C'est le PC qui m'a parlé le langage des consoles de salon pendant un court temps. Puis moi, ça, moi c'est là qu'ils viennent me rejoindre. C'est là, je retourne jouer au PC à travers ces choses-là. Moi.
Parce que tu peux jouer à Papers, Please. Parce que tu peux jouer au Walking Dead. Parce que tu peux jouer à Hotline Miami.
Toute cette librairie de jeux indépendants qui n'est pas représentée sur les consoles, malgré le grand effort que certaines consoles font d'avoir des marchés virtuels en place, il y a quand même un filtre parce qu'ils font rentrer peut-être 4 jeux par mois indépendants. Digital.
C'est un peu plus, je te dirais qu'à ce niveau-là, c'est un peu plus important, de, surtout dans les 2-3 dernières années. Au E3 l'année passée, Microsoft et Sony ont accordé une grande partie de leur conférence de presse aux jeux indépendants en disant qu'il y aurait un nombre incalculable, même que c'était, qu'ils étaient fiers que ce jeu-là, c'est un jeu indépendant, puis c'est une exclusivité pour ma console et tout ça et tout ça. Donc, c'est un peu mieux qu'avant, là. C'est sûr que c'est pas encore, on n'est pas encore au PC Master Race, là, à ce niveau-là, mais
non, c'est ça.
Ça s'améliore.
D'un point de vue de développement aussi, ce que je dirais, c'est quand même complexe de développer pour d'autres consoles que le PC. Donc, quand tu réussis à faire un jeu sur PC, tu as mappé tes contrôles comme il faut et tout. Le fait que maintenant les gens peuvent y jouer sous forme console, ça aide aussi le développeur parce qu'il n'y a plus besoin, dans le fond, de s'occuper de toute l'intégration sur Microsoft Xbox One, sur Sony, sur Nintendo, etc.
Oui, parce que ces studios-là, les studios AAA, ont l'effectif pour être capable de faire, tu sais, port ça.
Ça coûte de l'argent.
Mais ils ont des outils aussi. Il y a des consoles de développement, des consoles de jeux vidéo qui sont la même version de salon, mais faites pour un développeur. Chose que. Et ça vaut des dizaines de milliers de dollars pièce, quelque chose qu'un développeur indépendant n'a pas les moyens. Genre, on s'achète tout au plus, on s'achète une licence iOS pour publier. Genre, c'est ça qu'on fait quand on est indépendant.
Tranquillement, ça s'améliore, par exemple. Ouais. Il y a des mesures maintenant chez Sony pour que, justement, que les développeurs aient accès à ces dev kits-là à un faible coût, parce qu'effectivement, avant, c'était très hors de prix. Là.
Vous parlez beaucoup de ça, on parle beaucoup de consoles, puis de développement sur PC, mais qu'est-ce qui m'apparaît très important dans... l'espèce de vague de jeux qu'on rencontre depuis une couple d'années, c'est sur les téléphones intelligents. Donc, comment vous dealez avec ça, les développeurs?
Ben, c'est sûr qu'il y a ce créneau-là qui s'est développé dernièrement qui est super intéressant parce qu'on s'entend maintenant, on a tous un ordinateur qu'on porte avec nous à journée longue.
C'est ça,
fait que oui, c'est effectivement, il y a tout ce créneau-là qui est sorti. Moi, je dirais qu'il y a des très belles choses qui se font, comme il y a des très mauvaises choses, à mon point de vue, qui se font avec les cellulaires maintenant. On dirait maintenant que le jeu gratuit avec la monétisation, dans le fond, le pay to win, dans le fond, qui est un modèle qui a pas mal évolué de ça, là, les Candy Crush de ce genre-là. Fait que c'est sûr que ça vient un petit peu enlever du côté créatif du jeu parce qu'on en vient à juste créer des designs, dans le fond, qui deviennent, excusez-moi l'anglicisme, addictive. Dans le fond, fait que c'est sûr que. Maintenant, il y a beaucoup juste de designs qui sont en fait des formules pour accrocher ton joueur puis lui faire dépenser de l'argent, ce qui est plus vraiment la forme la plus pure de l'art du jeu vidéo, je dirais.
Mais qui est contre, la mission de plusieurs développeurs indépendants, qui est de la créativité.
Mais ça va quand même en conflit avec... On fait face à une génération de jeunes qui s'imaginent que tout est gratuit. Mm-hmm. Les objets de culture sont gratuits. Mm-hmm. Donc, développer un jeu... Il y a des gens qui se plaignent genre parce qu'un jeu indépendant coûte 4,99
le prix d'un café.
Le prix d'un café, un gros café avec plein de sucre dedans là, genre. c'est surprenant, puis c'est une question juste de relation avec le marché consumériste, à savoir on se demande qu'est-ce qui vaut la valeur des choses est remise en doute constamment parce que si je peux avoir un jeu gratuit sur mon téléphone, même si on me demande de payer plus tard, je peux l'ignorer, du moins jusqu'à une certaine mesure. Maintenant, j'arrive sur mon PC, pourquoi ton jeu ne me coûte pas rien?
Sur les cellulaires, vu la popularité de ces jeux-là, sortir un jeu cellulaire payant, c'est assez complexe, ce qui fait qu'on retourne dans la loupe de ben, « il faut que je fasse un pay-to-win pour être capable de financer mon jeu
».
La bannière indépendante, dans le fond, elle se détache un peu de ça. Les gens réalisent, dans le fond, « OK, c'est 3-4 personnes dans leur sous-sol qui ont fait ce jeu-là, je veux les encourager avec le 15$ que je vais investir ».
Qui ont hypothéqué leur temps libre pour faire autre chose, genre, je sais pas, travailler, pour de vrai, recevoir de l'argent, tout ça.
Ah non, c'est clair, c'est... Ce qu'on se souhaite, le scénario que se souhaite, j'imagine, la plupart des développeurs indépendants, c'est on sacrifie notre temps, notre vie, notre famille, notre argent au premier jeu
en espérant qu'ils pognent.
C'est un gros gamble. Ça.
C'est un très, très gros gamble et ils sont nombreux à le faire, ce pari-là. Là. Ouais.
C'est vrai. Ce qui est intéressant aussi avec le paradigme du AAA versus indépendant, c'est que souvent maintenant, les AAA, ce qu'ils demandent comme qualification requise pour entrer dans leur industrie, dans le fond, chez Ubisoft, par exemple, ils demandent au moins un jeu shippé. Mais c'est difficile maintenant d'avoir un jeu shippé sans rentrer justement dans les grosses boîtes. Fait que les gens partent leur compagnie indépendante en se disant ben, il faut que je shippe un jeu de toute façon. Fait que s'il fonctionne pas, au moins j'aurais shippé un jeu, je serais passé à travers la loupe, puis au pire, je finirais chez Ubisoft. Fait que il y a des gens qui viennent mitiger le danger de partir un jeu indépendant en se disant ça aussi.
Ouais, parce que ça devient comme ta carte de visite.
C'est ton portfolio.
C'est intéressant parce que le plus qu'on en parle, le plus que je constate. En quoi est-ce que la guilde est importante? En quoi est-ce que c'est un énorme coup de pouce? C'est une fusée pour vous autres. Parce que c'est ça, ces enjeux-là sont très, très, très compliqués.
C'est vrai.
Wow.
Ça fait des beaux contacts, puis quand les gens sont bons, mais ils finissent toujours par se trouver une job entre eux aussi.
C'est ça.
Ils vont avoir du mouvement de personnel. C'est fou, là, les soirées.
C'est jamais ça, t'as du staff qui est idle, immobile, qui n'a rien à faire. Vous faites des transferts de...
Les gens sont prêts à se partager les emplois. Ouais, c'est ça. C'était fou hier. Là. Il y avait quoi? On était les 700, là, je pense. Ouais. C'était vraiment impressionnant. Ouais. Le turnout hier à la SAT pour
le party de lancement
était vraiment la guilde, quelque chose.
Ouais. OK. Je pensais à la conférence de presse dans le sol de la BNP.
Non.
Comme quoi? Comment ça fait ça?
Des gamers à 10h30, non. Jamais.
Quoi qu'il y avait un after party au Arcade Montréal, en fait, qui a une capacité de quoi... quelques 100,
top
150 200. Personnes.
Qui commençait à minuit, d'ailleurs.
Ouais. Hey, mais c'est vrai, c'est une grosse semaine avec la fondation. Ben, en fait, avec le dévoilement de Arcade Montréal qu'on sait qu'il existait de façon un peu.
Disons que c'était mardredi.
Hey, non, mais j'avais pas constaté ça en disant l'idée de l'âge d'or, mais oui, dans l'ancien.
Dans l'Ancien Testament, non pas l'Ancien Testament.
Le nom de... Le bar, ensuite, a été...
Le bar d'Éric Lapointe.
Avant, c'était le Café K.O.
Oui.
Ensuite, c'est devenu le bar d'Éric Lapointe. Et maintenant, c'est Arcade Montréal qui est tenu par Papa Cassette. Puis oui, c'est vrai. Ça fait beaucoup de trucs
c'est
en même temps.
Et c'est pas anodin. Je pense que ça s'inscrit dans cette histoire-là, dans cette narrative-là de le marché indépendant. Ben, pas le marché, mais la scène indépendante de jeux vidéo à Montréal. Parce que la culture du jeu vidéo est en train d'atteindre... son apogée, en fait, avec la reconnaissance justement à Montréal, comme j'ai pas compris toute la saga judiciaire qui a mené à permettre l'existence de Arcade Montréal, mais ils pouvaient pas avoir autant de machines d'arcade dans le local parce que ça devenait...
Parce qu'une arcade s'est rendue illégale depuis quelques années. Si tu vois encore des arcades, c'est parce qu'ils ont un droit acquis.
C'était tout un charabia. Mais finalement, que c'est bien terminé, puis ça fait indirectement, ça crée cette espèce de reconnaissance, cette reconnaissance-là de... Il y a des gens qui veulent jouer à des jeux vidéo en buvant de la bière parce qu'on est rendu des adultes, puis la scène jeux vidéo nous a suivis. Et on est tous des développeurs, on est tous des gens impliqués dans le milieu.
En fait, étant allé une fois à Arcade Montréal dans le temps que c'était Prohibition style, c'est essentiellement aussi la même dynamique qui existe chez Randolph. On veut prendre une bière en jouant à un jeu. Moi, j'ai fini Terminator 2, le gun game. J'ai pu le finir à cause des braves gens d'Arcade Montréal, à un point tel que quand j'étais rendu à la fin, le gun avait surchauffé, parce que vous vous rappelez bien qu'il vibre. Ça, c'est un truc que c'est comme j'avais 8 ans, puis je me suis fait une note mentale de « tu reviendras à ça quand on aura 32 ». Et je l'ai fait. Bucket list, mesdames et messieurs.
Bucket list.
Ce qui est intéressant avec ce bar-là aussi, je trouve, c'est il y a un engouement aussi beaucoup pour regarder le jeu vidéo maintenant avec des trucs comme Twitch TV ou eSports aussi. Fait que, mais juste backseat gaming puis regarder quelqu'un jouer à l'arcade ou regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo, point, c'est rendu un phénomène qui est
C'est une activité
réel.
En soi. Il y a des
jeux. Ces bars-là montent maintenant un peu partout.
Il y a des jeux, je pense, qui sont quasiment conçu pour être regardé plus que joué en quelque sorte.
Uncharted vient en tête.
Je me souviens quand je me suis procuré L.A. Noire dans le temps, je pouvais pas avancer un chapitre sans que tous les gens dans mon appartement soient réunis sur le sofa. C'était comme une série télé qu'on regardait, là, et c'était moi qui jouais.
Mais le jeu vidéo indépendant a ce type aussi de jeu-là.
Mais oui.
Définitivement, dernièrement, il est sorti par exemple Rocket League, qui est dans le fond un jeu de soccer avec des autos
télécommandées.
Avec ta télécommande. Dans le fond. Okay. Puis c'est super le fun en passant.
C'est vrai, excellent.
Puis dans le fond, c'est exactement comme si tu regardais un match de soccer. Il y a des compétitions sportives de ça.
Ah, il y a de l'intensité, c'est ça.
Sportive.
Mais ça a déjà été, ça a d'ailleurs été, ça a gagné plusieurs prix comme le jeu de sport de l'année cette année, ce qui est quand même assez remarquable pour un petit jeu indépendant que personne s'attendait à grand chose. Bon,
exact.
Et Dieu seul sait, si ça se jouait dans la vraie vie, je le regarderais, ce sport.
Ah oui. Ah
oui. Oui, parce que c'est ça, on en a tellement inventé des sports fictifs, puis là, le jeu vidéo nous permet d'avoir, je pense ça aussi, c'est un bucket list de Mutant League Hockey.
Et c'est ça, c'est ce que les gens doivent réaliser, c'est qu'un jeu, justement, c'est un très bon exemple, Rocket League, quand on le regarde, le jeu, là, ça a l'air d'un triple A, ça a le, à la limite, le scope, c'est-à-dire la grandeur du projet est quand même limitée, c'est un petit jeu, on peut pas faire beaucoup de choses variées dedans, mais la racine, le core qui est là est tellement prenant, et c'est un jeu qui change la culture populaire parce qu'il y a des gens qui veulent le regarder. C'est devenu un e-sport assez rapidement.
Ouais.
Donc, les indépendants ont ce pouvoir-là. Ils peuvent faire un jeu qui va changer la scène, en fait.
C'est inspirant et je vois tes yeux et les miens aussi. C'est ça, parce qu'il y a comme le mouvement indépendant est un peu en train de pousser le AAA du dessous.
Ben, ça le
provoque le changement.
Oui, c'est ça. Je suis quasiment en train d'essayer de siguer dans mon propre segment.
Mais t'as très bien sigué dans cela d'Alexandre.
Ouais,
c'est pas grave. Non, vas-y.
Moi, j'aime mieux discuter. Ça me tente pas de parler pendant 20 minutes seul de toute façon. Mais en fait, c'est que le jeu indépendant que tu disais qui poussait justement l'industrie AAA, ça existe depuis les débuts du jeu vidéo, en fait. Si on pense à Activision, par exemple, qui a été une compagnie créée aux alentours de l'Atari 2600 et qui était... La compagnie a été créée dans une optique de « on veut donner une meilleure représentation aux artistes ». Parce que initialement les consoles, les fabricants de consoles de salon, mais c'est également ceux qui fabriquaient les jeux, les cartouches, tout ça. Donc, on voulait avoir une meilleure visibilité pour les artistes, qui est un peu la même chose aujourd'hui avec la scène indépendante contemporaine. Doom,
ben ouais.
Entre guillemets, qu'on pourrait considérer comme un jeu indépendant parce que...
Ouais, il était trop à le faire.
À ses débuts, c'est ça.
Il était trop à le faire, puis ils l'ont distribué via, je pense c'est Netshare ou je sais pas trop quoi, via distribution digitale, alors parce qu'ils pouvaient pas se payer la distribution conventionnelle dans les magasins, dans des boîtiers, tout ça. Donc, c'est quand même assez important de savoir que l'industrie indépendante, ça a toujours été là. C'est des gens qui veulent faire changer les choses. Peut-être que ce qui se passe en ce moment dans l'industrie, dans le jeu indie, dans la culture indie, ça va peut-être influencer l'industrie AAA éventuellement. En fait, je pense que c'est déjà en train de le faire.
Mm-hmm.
Mais c'est plus lent. C'est ça, c'est sûr et certain.
C'est ça, c'est toutes des grosses... Tu sais, la grosse machine est celle qui est la plus difficile à amener en haut de la montagne, là. Mais c'est drôle parce que tu parles de Doom, puis depuis tantôt, comment qu'on discute de ça, je pense que les deux créateurs de Doom ont cimenté l'imaginaire par rapport au jeu indie. Tu sais, le biopic Masters of Doom est vraiment là pour... créer l'espèce de trope de qu'est-ce que c'est deux gars qui hit the jackpot.
Un nerd, un métalleux.
Non, c'est ça, mais là, on a un génie de la programmation, puis quelqu'un qui ne vit que de bravade, finalement, John Romero. Et je disais, John Carmack, je le suivais sur Twitter, j'ai dû arrêter, je comprenais rien. C'est juste des références de comment il craque des codes, puis comment il comprend des raccourcis dans le langage de programmation. C'est un pur génie. C'est le cas d'un lightning in a bottle, ces deux gars-là, vraiment. C'était un coup de chance incroyable qu'ils se rencontrent. Puis ce sont devenus des rockstars de jeux vidéo.
Absolument.
C'est comme Cliffy B, finalement, le designer de Gears of War, qui, c'est pas un indépendant, loin de là, en fait. Mais il a commencé, c'était Jack Jazzrabbit. Et puis, dès qu'il est devenu riche, ben il s'est marié avec une top modèle, puis il s'est acheté la voiture sport, puis il vit une vie de jock là, incroyable. Donc, il y a cette espèce de rêve-là, mais ce rêve-là est un peu ridicule, honnêtement.
Oui, mais ils se font ils se construisent des maisons avec des pièges dedans, ils se payent des voyages dans l'espace.
Exact. Non, c'est ça, c'est ça qui arrive. Ce sont des grands-enfants avec des millions de dollars. Mais tout ça arrive, c'est le Hollywood du jeu vidéo, en quelque sorte. Cette espèce d'exubérance-là, qu'on va laisser de côté, et la scène indépendante essaie de revenir à des valeurs plus simples, autant dans le design, dans le mode de vie, plus simple un peu, plus humble, non pas nécessairement par moyen, mais juste par choix, en fait, et ça se traduit dans les jeux vidéo, et ça nous fait des jeux vidéo qui sont, en général, plus ressentis.
comme Alexandre nous disait, au niveau du récit puis au niveau des personnages.
Oui, c'est ça. Que t'as un... Je sais plus, j'ai un blanc, je m'excuse à tout le
monde. Tout est correct,
ouais, ça va. Non, mais continue à jaser.
C'est
qu'en fait,
parce qu'en fait, c'est ça. Pour l'émission, j'étais vraiment comme, on va se donner le dernier 15 minutes où vous me lancez tout ce qu'il faut que j'achète sur Steam. Puis, donc,
je sais. Fait que là, tu voulais finir ça là, go.
Non.
Il y a un exemple de success story, en fait. Le jeu indépendant le plus récent, je pense qu'il a vraiment fait des vagues, Stardew Valley.
Oui, Stardew Valley.
Qui est vraiment un jeu de c'est un simulateur de ferme. De gestion de ferme, en fait, wow. Qui s'inspire fortement de Harvest Moon, la série, c'est une vieille série de jeu Harvest Moon, une série japonaise, en fait. Et puis, c'est un jeu qui est sorti le 26 février passé. Et, attends, j'ai noté la statistique, je trouve ça vraiment incroyable. Jusqu'à maintenant, là, il a vendu 851 000 copies à 14,99.
C'est important de noter aussi que c'est une personne toute seule qui a fait ce jeu-là.
Exactement, genre pendant 4 ans. Ouais. Il a œuvré pendant 4 ans seul. Il a recommencé le jeu 2-3 fois. Il a développé sur XNA Framework, donc sur Microsoft. Ah. Et puis, ça, c'est une plateforme qui est gratuite. On peut le XNA Studio, en fait, si vous voulez vous essayer. C'est quand même peut-être pas bon pour un débutant, mais c'est gratuit, c'est là. Et c'est un jeu qu'il a fait parce qu'il aimait Harvest Moon, donc un jeu triple A, en quelque sorte, vraiment un jeu d'une grosse compagnie, mais il n'aimait pas les défauts de ce jeu-là, et d'où est-ce que la série s'en allait, donc il s'est dit, je vais faire mon propre jeu en réaction à ce que j'aime pas, parce qu'on dirait que les producteurs, les développeurs de gros jeux n'écoutent pas leurs fans. Et on arrive...
Au lieu de faire un gros billet sur whatever plateforme numérique, il a fait « Ben non, je vais pas chialer, je vais le faire. »
Je vais le faire. Mais là, encore là, il a passé 4 ans à le travailler. Qu'est-ce que ça dit sur le temps qu'on a, genre nous, à travailler? En tout cas, la légende raconte qu'il passait jusqu'à 10 heures par jour à travailler sur son jeu pendant 7 jours.
Mais ça, c'est je trouve ça extraordinaire parce que c'est Joyce. C'est tous les mythes qu'on a sur les grands auteurs de cette époque-là qui...
Et ça donne des jeux qui sont épris d'un élan de sympathie où, dans le cas de Stardew Valley, un jeu qui est... Tous les jeux sont piratés, point. Un jeu sort sur PC va être piraté, mais il y a des gens qui achetaient des copies aux gens qui l'avaient piraté pour... C'est un phénomène qui est quand même un peu isolé à Stardew Valley, mais c'est un jeu qui a généré cet élan-là de sympathie parce que les gens sont comme au courant que la légende est montée, là, que ça, c'est une seule personne qui a passé 4 ans dessus. Puis c'est comme si c'était un labeur d'amour, le jeu, c'est pas une grosse compagnie, il y a pas de pay to win d'inclus dedans, c'est un jeu qui parle de petites valeurs simples.
Un retour au rétro gaming aussi.
Ouais, clairement.
C'est vraiment, c'est quelque chose qui se perçoit beaucoup dans la scène indépendante. En fait, on s'est rendu compte, dans le fond, à force de regarder les AAA qui perdaient de l'argent à faire des gros jeux qui coûtaient des 500 millions à faire avec des milliers de personnes qui travaillaient dessus, que finalement, c'était pas nécessaire puis qu'on pouvait faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus petit. Puis c'était autant le fun, autant de plaisir, sinon plus d'heures investies dedans pour une fraction infime du prix que ça
avait coûté. C'est comme de se dire, ça fait... une centaine d'années qu'on fait du cinéma, on est encore en train de développer des techniques et des choses comme ça. Mm-hmm. Et là, un jeu vidéo en 2D, on l'aura abandonné en 20 ans parce qu'on est passé au 3D puis on est pas... Non, il reste encore un langage à développer avec le 2D. Et les développeurs indépendants creusent ce filon-là puis ils vont trouver des nouveaux langages avec le 2D, je pense. Mm-hmm. C'est une question de temps, c'est une question de créativité puis ils l'ont. Ouais. Ces gens-là, ils l'ont.
Parce qu'on s'entendra aussi que le média jeu vidéo aussi, c'est un média interactif avant tout, donc ce qu'il a l'air et les sons qu'on entend sont importants dans le design, puis la facture visuelle est importante aussi, mais cette facture-là, tant qu'elle est cohérente, elle peut être minimaliste et très très bien fonctionner si l'interaction est bien jouée.
Puis en même temps, c'est drôle parce que ça me ramène à, tantôt on faisait la blague de quand on fait des gestes à radio, les gens ne les voient pas mais les sentent, puis comme quand tu crées quelque chose indépendamment, le labeur, le cœur que tu mets dedans, peut-être qu'il est senti.
Mais c'est la notion de se dire, tu joues à un jeu, là, puis là, tu dis, il y a eu 4 personnes qui ont travaillé là-dessus. Les idées sont d'autant plus pures. Parce qu'à un moment donné, tu joues à un jeu, puis à un moment donné, tu le sais que la mécanique a été explorée à fond. Que, genre, toutes les idées, toutes les permutations ont été réfléchies et intégrées et raffinées. Puis tu dis, il n'y a pas un producteur à un moment donné qui a comme mis son pied à terre, qui a dit, tassez-vous, faites pas ça, ça vaut pas la peine, whatever. Donc, les idées les plus pures se retrouvent dans la scène indépendante. Je vais pas vous mettre trop de pression si vous développez les jeux, là.
Non, c'est exactement
mais
vrai.
Les discussions vont plus vite. Il n'y a pas tant de résistance que ça. Le jeu d'auteur, en fait, c'était pas un là que je voulais en arriver avec tout ça.
Ça m'émeut, man.
Ça arrive, ça existe, le jeu d'auteur.
quand nous, on a quelque chose à intégrer au jeu, chez nous au studio, on est quatre, puis on revire nos quatre chaises, on en parle pendant 15 minutes, puis souvent, ça rentre dans le jeu.
Exact, il n'y a pas de middle management.
Non, c'est ça.
Il n'y a pas de cost effectiveness.
Ça coûterait quoi à faire? Est-ce que combien de temps que ça nous prendrait? OK.
c'est
une bonne idée, pourquoi pas. À l'inverse aussi de ça, par exemple, les studios AAA commencent à sentir la soupe chaude, parce qu'à l'inverse, on sait qu'ils sont 400 à travailler sur un jeu. Donc maintenant, on s'attend à un jeu qui est parfait presque à chaque fois.
Ouais.
Il y a quand Ubisoft sort puis qu'il y a des bugs, mais il y a 400 personnes qui travaillent là-dessus. Moi, je viens de jouer à un jeu qui en avait 4 dessus puis il était parfait. Fait qu'on voit aussi cette disparité-là commence à faire aussi des gens fâchés aussi quand ils achètent des jeux à 60$ puis qu'ils sentent qu'ils n'en ont pas pour leur argent.
60$, c'est même...
C'est gentil. Ouais,
c'est gentil.
C'est plus rendu 90.
Ouais.
Avec une statuette que tu jettes là, le jour d'après. Mm-hmm.
Et ils ont raison aussi, fondamentalement. À 90$, il y a un argument de taille pour dire « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? »
C'est vrai.
Malgré que l'argument inverse, c'est, je veux dire, s'il y a un bug dans un jeu qu'il y a 4 personnes qui l'ont fait, t'as pas vraiment non plus la raison de te plaindre. Mais non, c'est sûr que c'est ça. Il y a comme un élément vient changer la dynamique au grand complet. C'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est qu'il n'y a pas de, place qui est à l'abri. L'industrie du jeu vidéo est assez cohérente et assez finement et c'est serré que si tu tires d'un bord, ben, ça va aller de ce côté-là, puis ça va. Puis c'est très intéressant.
Tu sais, au niveau de des triple A qui sentent la soupe chaude un peu, c'est pas juste au niveau de l'efficacité du travail, tout ça, des productions. On parle de cost effectiveness, mais je veux dire, 800 millions de budget, puis plein de bugs versus...
36 000 $ de budget.
36 000 $ de budget et 4 personnes, merci Chris. Ça c'est niveau soupe chaude, oui, il y a ça aussi, mais il y a quelque chose aussi au niveau de la représentation des personnages, des récits. On revient à des choses plus simples, on revient aussi à des récits plus simples. On n'a pas nécessairement le budget pour faire beaucoup trop d'explosions en 30 secondes à la Kratos dans God of War. Donc, on revient avec des personnages qui sont souvent réalistes, qui fait parfois qui met en colère parfois certaines personnes choquées pour rien.
Voilà.
Je pourrais nommer les Gamer Gator ou les Gamer Gator aussi. Certaines personnes les affinent.
Là où la francophonie a un avantage. Hein?
Quand même. C'est vraiment ça, c'est ça. On en voit de plus en plus aussi, justement, depuis les fameux événements du Gamergate avec des personnages, justement, Stardew Valley. Peut-être que ça aurait pu arriver, mais je pense que le fait que ça soit, justement, un fermier ou une fermière, je pense qu'on
peut changer de sexe, en fait, et on peut séduire et marier n'importe qui. Il y a une série de personnages valides, mais autant homme que femme. Même si on est homme ou femme, on fait le mélange qu'on
veut. On peut faire l'un et l'autre. Puis il y a même des modes, en fait, qui existent pour le jeu que j'ai vu récemment avec des personnages plus variés parce qu'ils trouvaient que même les personnages n'étaient pas assez variés.
C'est un brin whitewash, mais...
Ça. Bon, ça, c'est un problème, là. Mais c'est ça, on s'éloigne graduellement un peu de la masculinité militarisée dominante depuis les années 90 avec les Sega et ses bros qui jouent à Sonic puis Mortal Kombat. Pas de jugement, qui sont des bons jeux. Mais c'est ça, il y a vraiment, en fait, le triple A commence à le sentir un peu plus. Je pense à Assassin's Creed, par exemple, avec il y a toujours un avertissement au début de chaque jeu. Bon, le jeu a été développé par une équipe variée, multiculturelle, aux ethnies, croyances religieuses variées. Et récemment, dans le dernier épisode, on a rajouté orientation sexuelle et genre différent. Donc ça, c'est vraiment important qu'il inclut ça, ce qui se serait sans doute pas passé. Bon, faut dire que le dernier opus de la série Syndicate a eu quand même quelques polémiques avec un personnage féminin qui était censé être autant représenté. Il y a deux protagonistes, en fait, dans le jeu. Donc, deux jumeaux, Jacob et Evie Fry.
Okay.
On disait toujours, les deux sont représentés. Et finalement, on peut jouer tout le jeu avec Jacob au complet, sans même toucher... Mais en fait, d'une dizaine de missions au maximum. Mais bon, il y a eu des polémiques, mais je pense que c'est déjà un pas dans la bonne direction pour les triple A.
Oui, et puis il y a Assassin's Creed Liberation sur console portable, où l'héroïne est une fille d'un maître d'esclaves blanc et d'un esclave noir.
Oui.
En fait, c'est une mulâtre donc, qui devient une assassine pour qui essaie de changer la situation des choses. Donc, en tout cas, c'est...
Il essaye.
Mais en même temps, ça, c'est un jeu sorti sur console portable, ce qui sont souvent un peu comme en parallèle, c'est les consoles portables où on risque les choses parce que les jeux coûtent moins cher à faire.
Les équipes sont plus petites.
Sont moins longs, les équipes sont plus petites. Donc, on a testé les os là-dessus, tu sais. Puis, ben, quand le jeu fonctionne pas parce que personne possède une PS Vita, ben, ils vont blâmer, faire, bah, mais c'est pas votre idée d'une héroïne mulâtre, ça marchait pas. Ben, non.
Non.
Ou, tu sais, on pense à la récente polémique entourant Baldur's Gate. En fait, Baldur's Gate, il y a eu un remake récemment.
Ah ouais!
Et Bullfrog. C'est Bullfrog? Je sais plus, je me souviens plus. Il y a Frog, me semble. C'est pas important. Okay. La compagnie qui s'occupe du remake a fait une extension qui se déroule entre le premier et le deuxième opus.
OK.
Dans cette extension-là...
Neverwinter Nights, le deuxième, c'est ça?
Non, c'est Baldur's Gate 2.
OK, pardon.
C'est ça. Dans cette extension-là, dans l'extension d'un jeu, il y a une quête secondaire et un personnage secondaire qui est au misère et transgenre. Okay. Et là, il y a vraiment eu... une tempête sur Internet et ça a fait... Bon, il y a des gens qui ont donné des critiques négatives au jeu parce que, bon, il y avait un personnage transgenre dans le jeu alors que c'était un personnage dans une quête secondaire puis c'était vraiment... Si tu lui demandais pourquoi son nom, c'était comme ça, il te répondait telle affaire qui voulait dire qu'il était transgenre, mais tu sais, c'était vraiment chercher le trouble pour rien.
Ah oui, oui, parce que... C'est pas dans le centre, c'est vraiment... On a mis la présence de transgenre.
C'est ça.
Dans le voir. Wow.
Et pourtant, lorsque j'en ai la possibilité, je joue toujours une femme dans un jeu vidéo.
Même aussi.
Mon ami Pascal, il est comme ça aussi, absolument. Puis tout à votre honneur. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est comme le guichet automatique. Là. Tu vas dans l'option français parce que c'est la première qui te le dit.
C'est ça, je veux juste voir autre chose.
Mais vous autres, vous faites un effort véritablement pour aller voir une autre
version. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que... Je commence le jeu, j'essaie de me faire, je suis pas satisfait, j'abandonne, je fais une fille. Ouais, c'est toujours comme ça, toujours, toujours.
Ça a l'air comme un effet qui est meilleur quand t'es femme chef. Moi, à quelques reprises, il y a des gens qui m'ont juste comme, ils ont fait, c'était plus cohérent avec le story arc du personnage.
Ça se peut.
Hey man, il y a du monde très brillant derrière l'écriture de Mass Effect. Ça serait pas fou qu'il y ait délibérément, juste un peu légèrement poussé dans la bonne direction.
Pour revenir rapidement sur The Baldur's Gate, j'ai vu aujourd'hui que Ed Greenwood est descendu de sa tour de mage pour faire un post public où est-ce qu'il disait essentiellement c'est lui qui a écrit dans le fond le monde de Faerûn, des royaumes de Faerûn. Dans le fond, c'est lui qui a créé le monde dans lequel se jouent les Baldur's Gate. Et il est descendu et il a dit dans le fond, il a nommé toutes les fois dans les livres et dans toutes les livres de règles et toutes les livres écrits où il y avait des personnages homosexuels, transgenres, etc., des gens qui se déguisaient en femmes, qui se déguisaient en hommes, etc. Et puis, dans le fond, en réponse à ça, l'écrivain lui-même est sorti pour dire, écoutez, ça fait longtemps que vous auriez pu avoir cette chicane-là.
Et ces gens-là demande une cohérence et une certaine éthique dans les créations de jeux, dans les critiques de jeux, alors que quelques années auparavant, il disait, bon, pour les critiques, on veut que ça soit basé sur des faits objectifs, techniques, tout ça. Et là, ils font des critiques basées sur des trucs aberrants et totalement subjectifs. En tout cas, c'est niveau cohérence, les gamers gâteux.
C'est tout ce qui met un joueur mal à l'aise, qui le fait sortir de sa zone de confort. Et les triple off sont pas friands de ça parce que c'est un risque de perdre des joueurs et tout ça. Alors que si on veut ramener aux jeux indépendants, c'est un espace un peu plus intéressant pour qu'on puisse faire ce genre d'exploration là. Il y a des jeux qui mettent mal à l'aise. Il y en a plein. Tu parles de Papers Please. Tu l'as nommé tout à l'heure. Man. C'est un jeu qui est horrible. Ouais. Concrètement, c'est un jeu. Papers Please est un jeu dans lequel on joue quelqu'un qui est
un douanier
en fait qui laisse rentrer ou pas. C'est vous êtes le joueur, vous êtes la personne qui décide, vous mettez les tempes sur le petit papier ou pas là. Si la famille ou la personne qui est là rentre ou pas dans le pays, il y a des bonnes, il y a des mauvaises décisions qui peuvent se prendre parce qu'on peut faire rentrer les mauvaises personnes ou on peut empêcher de faire rentrer les bonnes personnes.
Parce qu'on est dans un régime totalitaire où la frontière doit être très entretenue et tout. Fait que
Famille à nous est dans la balance aussi parce qu'on peut se faire punir d'avoir pris la mauvaise décision et donc il faut être plus rough mais pas en tout cas c'est un jeu qui vient chercher dans les tripes qui met vraiment mal à l'aise et beaucoup de joueurs n'aimeraient pas ça se faire renverser comme ça parce que beaucoup de joueurs ne jouent que pour le Schadenfreude le sentiment de victoire sur l'autre ou sur une situation alors que là le jeu indépendant pas tous évidemment parce qu'il y a des gens qui veulent designer pour le plaisir. J'ose présumer que ton jeu, Christopher, va être un jeu plaisant.
Je le souhaite.
Ça semble, selon la...
On le souhaite tous, ça va bien aller.
Ouais, ça devrait, ça devrait. Mais c'est ça, il y a des jeux qui vont chercher dans les triples.
Mais ouais. C'est très, très vrai ce que tu étais en train de dire, parce que je revois dans ma tête tous les jeux que je me dis que je dois jouer, notamment, je l'ai mentionné tantôt, Hotline Miami, qui est un horreur de gore.
Ouais. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui jouent à Hotline Miami puis qui ne voient que la performance parce que les mécaniques sont là, mais si tu joues à Hotline Miami puis à un moment donné t'arrêtes et t'es mal à l'aise, je pense que le jeu a fait son travail aussi.
Ouais, exactement, mais il y a des jeux indépendants qui, en fait, malheureusement je pourrais pas le citer de mémoire comme ça, mais c'est seulement une extension, c'est toi qui descends des escaliers à l'infini. C'est un jeu extrêmement efficace parce que tu le joues dans le noir, t'es dans un corridor, mais en fait t'es dans une cage d'escalier,
okay,
et tu descends, et les seules altérations qu'il y a au jeu, c'est la bande-son. Fait que t'es continuellement, et je veux pas vous gâcher quoi que ce soit, là, parce que de toute façon, je l'ai même pas nommé, c'était quoi le jeu? Je pense que c'est xn.32.exe. C'est juste les bruits. Fait que la tension existe seulement avec le fait que, non, il va se passer quelque chose à cet étage-là. Et non, il se passe rien. Oh, là, j'arrive, là, le bruit est plus fort. Puis tu fais juste écouter le son, puis toi-même te foutre la chienne. Ça, c'est des affaires que... Hey, oublie ça, là. Stanley Parable, ça pourrait jamais, jamais, jamais être fait par un triple.
Mais c'est ça, on est dans la force du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'un film, tu peux sur play, ça joue tout seul, whatever. Le jeu, il sera jamais... Le jeu avance pas dans son état tant que t'es pas là.
Ouais. Mm-hmm.
Et ça, c'est la force principale du jeu vidéo, c'est l'interactivité. Ben oui.
Et là, on est à 10 minutes de la fin, je veux avoir, si possible...
de quoi pour remplir ta wishlist?
Ben oui, ouais. Il y a un sale de Steam, ouais, parce que ça, il faut le mentionner, je pense qu'il y a, il y a aussi une grande reconnaissance populaire de la vente de Noël de Steam,
ouais,
qui est devenu le plus important tueur en série de portefeuille.
Il y a la vente estivale aussi.
Il y a une vente aussi, ouais, aussi de oui, parce que c'est pendant l'été, il y a personne,
ben oui,
qui joue. C'est ça. Fait que d'ici le temps, bon, l'émission elle est faite aujourd'hui.
Et là, désormais, ils ont gamifié les ventes. Donc, quand tu achètes des choses, tu obtiens des objets bonus, ouais, des cartes à échanger. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. Ils ont compris quelque chose.
Donc, juste pour ambitionner dans cette horreur-là, qu'est-ce que... Je sais que toi, Guillaume, tu voulais parler de Undertale.
Je voulais parler de Undertale également. Rapidement, c'est un jeu qui est sorti en septembre de l'an passé, le 19, si je ne m'abuse. Et puis, c'est un jeu très inspiré par Earthbound, qui est un RPG qui a marqué la génération 16-bit Super Nintendo et tout. Dans Undertale, on joue le rôle d'un enfant asexué, du moins c'est pas trop dit, qui tombe dans un trou et qui tombe dans le monde des monstres. Et là, à ce moment-là, on a le choix de se battre pour sortir du monde des monstres ou devenir ami avec ces gens-là. Puis, ça se traduit dans une mécanique de jeu où quand on rentre dans un combat à la RPG, des combats générés aléatoirement, là, l'écran change, on est face à un monstre puis on n'a pas le choix. Mais là, on a le choix. Il y a toujours la possibilité d'éviter les attaques du monstre jusqu'à ce qu'on trouve la manière de le calmer, de le pacifier ou d'en faire son ami. Et il y a une manière de finir le jeu sans jamais avoir tué personne, en fait.
Wow!
Et à partir de là, si on peut aussi tuer tout le monde ou tuer juste quelques personnes, et là, le jeu va prendre en compte vraiment un paquet de micro-décisions. C'est un jeu qui a fait pleurer du monde. c'est un jeu qui a des qui monte bien ces mécaniques là et puis qui les utilise à bon escient pour passer un message. C'est un jeu qui utilise les mécaniques de manière comme holistique pour vraiment vendre un peu ce qu'il fait. Sinon, aujourd'hui ou hier, je pense, sortait 1979 Revolution,
oui,
un jeu sur c'est ça, un jeu où on interprète un photographe en Iran à la fin des années 70. Où on doit prendre des photos des événements puis des choses qui se passent, qu'on doit naviguer entre ses amis qui font tous partie de partis politiques ou de factions ou des révolutionnaires différents, et où on assiste à des tortures, on se fait torturer nous-mêmes. C'est un jeu excessivement lourd sur la morale, mais il a des très bonnes critiques. C'est un jeu qui semble important. Il est trop nouveau, là, je l'ai pas joué encore, là, mais c'est un jeu qui semble vraiment, vraiment pertinent. Revolution 1979.
Merci, ça a l'air extraordinaire. Mm-hmm. Christopher, t'as-tu...
Ben, j'en ai deux qui me viennent rapidement en tête. Il est sorti hier aussi, justement, Enter the Gungeon, qui est dans le fond un roguelike qui est exceptionnel. Je sais pas si vous connaissez Binding of Isaac.
Oui.
C'est un jeu dans ce style-là où essentiellement c'est des salles qui sont avec des monstres qui sont générés procéduralement. Tu trouves des items qui peuvent t'aider. Le but, c'est de se rendre le plus loin possible en tuant le plus de monstres, le plus de boss, en ramassant le plus d'items jusqu'à la fin, dans le fond, du Gungeon. Fait que ça, c'est numéro un si on aime les jeux un petit peu plus arcade. Sinon, j'ai aussi dernièrement joué à un jeu qui s'appelle The Culling, qui est essentiellement un Hunger Games 16 personnes. Ils ont pris, dans le fond, l'idée du Hunger Games. On met 16 personnes sur une île, il faut se façonner des armes, ensuite il faut trouver, dans le fond, des ressources, puis au bout du compte, il faut qu'il reste une personne, puis c'est la personne qui gagne, dans le fond, The Culling.
Et c'est multijoueur, c'est ça?
C'est multijoueur, ouais. Ça peut jouer en équipe de deux, donc huit équipes de deux. C'est très, très, très amusant. En ce moment, c'est sur Steam Early Access, donc le jeu est encore en développement, mais c'est déjà vraiment, vraiment bien.
Wow!
Mais ça a été un coup de cœur pour moi dernièrement.
Mais ça te prend. Puis en fait, t'as pas besoin de 16 amis. Tu peux juste.
Non, c'est ça. T'as besoin d'un ami si tu veux jouer à deux. Sinon, tu peux jouer tout seul, 16 contre 16. Puis c'est quelque chose.
Ouais,
ça. À jouer après avoir écouté Battle Royale.
Ouais, j'imagine. Exactement.
Shit, belle soirée en perspective.
Hop, la joie.
Alexandre?
En fait, moi, il y en a trois qui me viennent, que j'ai pas tous joué, en fait, malheureusement. Le premier, c'est The Witness, en fait, qui est développé par Jonathan Blow, qui était le développeur de Braid et qui est sans doute Braid, qui est sans doute le jeu qui est parti de la un des jeux qui est parti de la vague indépendante, qui avait déjà d'ailleurs eu quelques plaintes au niveau du prix, bon, $40 pour un jeu indépendant. Puis Jonathan Blow étant la personne qui a le moins la langue dans sa poche de l'industrie, probablement.
Qui n'est pas reconnu pour avoir sa langue dans la poche en plus.
Non, mais vraiment. Mais lui, il est quand même assez exceptionnel. Si jamais vous avez la chance de le voir en entrevue, c'est quelque chose. Il a dit, ben, j'ai passé pratiquement 8 ans de ma vie à faire ça, fait que je peux bien faire ce que je veux. Il paraît que c'est un jeu exceptionnel et extraordinairement difficile aussi. C'est un jeu de puzzle mélangé avec un jeu d'exploration. Il paraît que c'est incroyable. Le jeu est magnifique aussi de ce que j'ai pu voir. J'ai quelques collègues aussi qui ont joué puis qui ont dit que c'était vraiment remarquable. Le deuxième, on parlait tout à l'heure des indépendants qui peuvent pas faire ce que les AAA font. Mais ce jeu-là est vraiment l'exception à la règle. En fait, il y en a d'autres, c'est sûr et certain, mais Outlast, que je n'ai toujours pas fini, qui est un jeu de survival horror d'une compagnie montréalaise qui s'appelle Red Barrel Games. Et qui est un jeu dans le fait, on enquête dans un asile et tout ce qu'on a, c'est une caméra.
Ouf.
Ouais, on peut allumer la lumière si on veut, mais on a des batteries. Si jamais on n'a plus de batteries, on n'a plus de lumière. Donc, il faut trouver des batteries, tout ça. Découvrir ce qui s'est passé dans cette magnifique asile. Et vraiment, c'est assez incroyable pour un jeu indépendant. Ça aurait pu être un jeu AAA, en fait. Là.
Sauf que
le problème, c'est qu'il aurait sans doute rajouté beaucoup de guns.
Ouais.
Mais
les gens qui ont fait Outlast, en fait, sont des anciens d'industrie Ubisoft. Ouais. En fait, Philippe Morin, il a travaillé sur... il était comme un des grands designers, en fait, sur les premiers Uncharted. Okay. Donc, côté cinématographie,
il
savait ce qu'il faisait avec Outlast, effectivement. Super bon.
Ça a l'air anxiogène à l'os.
On s'allait.
Très efficace.
Et ton troisième?
Mon troisième, c'est pas récent, mais je me suis procuré récemment sur ma PS4. C'est Broforce. C'est un genre de shoot'em up à la Contra. C'est quoi l'autre que je cherchais? Bon, Contra. Bon,
Contra dit tout.
Mercenary Kings,
etc. Ouais.
Même un petit peu Worms, en fait.
Ouais, Worms. Oui, parce qu'on peut détruire l'environnement et on peut jouer jusqu'à 4. Il y a du friendly fire, mais juste au niveau des compétences spéciales, donc des ultimate abilities, tout ça. Ouais. Et c'est un jeu dans lequel il faut libérer certaines zones de l'oppression, genre du Vietnam ou des trucs de même. Ben, en tout cas, des parodies, ça se prend vraiment pas au sérieux.
Tout en étant film d'action des années 80.
Oui,
là,
vraiment,
ouais, ça,
en fait, à ce niveau-là, c'est qu'en fait, chaque personnage, il y a différents personnages, on se transforme, quand on va libérer quelqu'un, ben on change de peau. Et chaque personnage, en fait, est une parodie de héros de films d'action des années 80 jusqu'à récemment. Donc, mon préféré, il y a Bronan de Brobarian. Ashley Brolyams, qui est de Ash dans Evil Dead.
Ouais.
Il y a Bromando, Commando. Il y a aussi Braid, ça c'est un peu poche par exemple, c'est genre Blade en fait là. Ça c'est so-so comme jeu de mots. Bon en tout cas j'en passe. Il y a même Ripley à un moment donné que tu peux avoir, Ripley dans Alien. Bon il y en a plein. Et c'est quand même c'est super difficile. Moi je joue tout seul pour le moment, mais c'est super difficile comme jeu. Mais c'est tellement divertissant là. C'est à chaque fois que tu complètes un tableau, il y a un hélicoptère qui vient te chercher, il y a un petit solo de guitare, c'est marqué Ariel Liberated avec un drapeau des États-Unis. Si tu as une manette de PlayStation 4, ça va illuminer genre bleu, blanc, rouge. Ah, c'est excellent comme jeu.
Je veux pas vendre la mèche, mais on se bat qu'on est militaire tout le long, mais le boss de fin, c'est Satan.
Oui, rien de moins.
Oui. Donc, une raison pour se rendre à la fin, là, vraiment. Mm. Hey, et on s'est rendu à la fin. Félicitations. Oui. Sérieusement, Guillaume, Christopher, Alexandre, merci pour l'émission. Hélène aussi, merci énormément d'avoir été là. Sérieux, non, une bonne main d'applaudissements pour vous autres, parce que c'était fantastique. Vraiment, très bien.
Puis, on va en faire d'autres.
Hey, je nous le souhaite, en fait. Oui. Fait que bonne semaine, tout le monde. Et bon, allez jouer à des jeux. Man, je vais aller tellement jouer à des jeux. Oh.
Merci.
La rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique,